Puis vendredi soir, on a eu comme un repas ensemble avec les anciens et différents responsables de différents ministères. Ils ont écouté le cœur de DDO, si je peux dire, de notre Église. Et puis le dimanche, ils ont reçu un mot pour nous, de la part du Seigneur. Alors, j'ai composé, vous avez les mots qui ont été mentionnés, et vous allez les reconnaître. J'ai écrit un petit chose pour me souvenir de ça. Alors, ça s'adresse à l'Église de Dollard, ça s'adresse à notre Église. Église de Dollard voit comment Dieu travaille de façon inattendue. Considère d'où tu viens, tes racines, ton héritage, ton patrimoine. Nous sommes le fruit des ouvriers et ouvrières du passé, de ces femmes de l'Alliance, pionnières au Québec. Céline, Marie-André et sa mère font partie de ce patrimoine. Ces pionniers nous ont passé le flambeau et c'est à notre tour, Église de Dollard, de préparer la relève. Dieu a dit à Abraham, continue d'avancer. Il a obéi et élevé des autels, des lieux d'adoration partout sur son chemin. Dollard, continue, va où Dieu t'appelle, sois un lieu de prière pour toutes les nations. Comme Abdias a pris soin des prophètes de Dieu au prix de sa vie, sois un refuge pour les élus de Dieu à Cloverdale. Il nous appelle à le suivre, coûte que coûte. La motivation, c'est la compassion. Vous êtes bien parti, n'abandonnez pas votre premier amour en chemin. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Aimez Dieu, aimez l'Église, aimez le monde. Oui, ça va demander un effort considérable. Comme Jacob a servi 7 ans pour Rachel, et ce fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait, soyez amoureux et servez avec joie. Voyez comment Jacob a été béni. Vous êtes comme un feu, comme une lampe qui éclaire, apporte la lumière là où il fait noir, et un feu de camp qui réchauffe tous ceux qui s'approchent, qui viennent au milieu de vous. Ils sentent votre chaleur. Et finalement, Jésus est le libérateur. L'ennemi ne peut pas prévaloir. Cloverdale a besoin de libération. Alors ça, c'est des paroles pour nous qui viennent de Dieu, de la part du réseau de direction qui nous a emporté leur témoignage la semaine dernière. Et j'aimerais ajouter, continuer avec ça, avec un mot que le Seigneur m'a donné aussi pour nous, et c'est présent, le mot présent, la présence de Dieu. Et le texte qui va avec ça c'est Martin Anger qui... Durant ses heures de loisir, pendant nos délibérations, il n'écoutait pas, il était en train de recevoir un logo pour notre Église, et il nous le partage. Alors, il a trouvé dans Cloverdale qu'il y avait le mot « love ». Hein? Alors, Cloverdale, c'est notre mission. Mais le texte que le Seigneur m'a donné, qui va avec ça... C'est les dernières paroles qu'il y a dans le livre de l'Exode. C'est écrit, « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. » Et une fois que l'ouvrage a été achevé, la nuée est venue couvrir la tente de la rencontre. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée demeurait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuit s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où ils s'élevaient. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes. Et l'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre. Il lui parla et dit, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur. » Alors, Dans les premières paroles, c'est « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. » Moïse, il a rassemblé tous les éléments, il a fait fabriquer tous les éléments. Il y avait l'Arche de l'Alliance à l'intérieur, il y avait les autels, il y avait toutes sortes de choses qui meublaient cette tente-là. Et Moïse a suivi à la lettre le commandement du Seigneur, la loi du Seigneur. Il a reçu les plans, les instructions, et il a tout fait exactement comme le Seigneur lui avait demandé. Et le peuple aussi a embarqué dans le projet parce que c'est rare qu'on voit ça. C'est quelque chose d'assez inusité. Les hommes qui exécutaient l'ouvrage, le lieu saint, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes, que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. N'apportez plus d'offrandes, on en a trop. Fantastique. Alors, vraiment, Moïse a suivi à la lettre. Le peuple a répondu. Tout était conforme à la parole de Dieu. Les plans, les dessins étaient parfaits. Et c'était juste des matériaux. Des matériaux comme les autres. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait la présence de Dieu. Tout était là. On pourrait dire la forme extérieure était là. Il ne manquait que la présence de Dieu au milieu de la tente. Et c'était représenté par la nuée durant le jour et ça se tournait en flamme de feu durant la nuit. Et quand la nuée se déplaçait, ben le peuple suivait la nuée. De jour, de nuit, des fois il était là une journée, des fois il était là 6 mois. Peu importe. Lorsque la nuée demeurait sur la tente, le peuple demeurait là. Et aussitôt que la nuée se déplaçait, on se déplaçait aussi. Alors ça, c'est un peu l'image que le mot que le Seigneur m'a donné ou nous donne. Et c'est intéressant que Dieu a attendu que la tente soit prête avant de se manifester, avant de pouvoir se manifester, avant de pouvoir conduire le peuple. Il a attendu que tout soit en place, que Moïse ait rassemblé tous les morceaux. Et le peuple non plus ne pouvait pas bouger sans la présence, sans la direction de Dieu. Alors, cette tente-là, c'est quoi? Ça représente quoi? La tente dans le désert, à partir de Moïse jusqu'à, on pourrait dire David, jusqu'à la construction du temple, Salomon, la présence de Dieu. Dieu est présent. Là où Dieu campait, là où Dieu habitait au milieu de son peuple, là où Dieu était présent, là où Dieu rencontrait son peuple, là où Dieu parlait à son peuple. Et c'est une promesse que Dieu avait faite à Moïse. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient en mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Une promesse faite à Moïse. Je vais habiter. Le désir, le cœur de Dieu, c'est d'habiter au milieu d'un peuple d'êtres humains. Ça, c'est sa passion au Seigneur. C'est pouvoir habiter avec des êtres qu'il a créés. Quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas? Le désir profond du cœur de Dieu, c'est de pouvoir habiter parmi nous. Et ils vont connaître que je suis l'Éternel parce que je vais habiter au milieu d'eux. Alors ça, c'était dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ou plutôt dans les Évangiles avant. C'est qui le temple? C'est Jésus. La parole a été faite chair et elle a campé, tenté. Hein? Tabernaclé. Je ne veux pas sacrer, là, mais... Hein? Dieu a habité. Il est venu planter sa tente parmi nous. Il est venu vivre au milieu de nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Et un peu plus tard, dans Jean, il dit... qui parlait du temple, il détruisait ce temple, mais il parlait du temple de son corps. Alors, ce temple-là, qui est une image de la présence de Dieu, c'est Jésus qui, dans les évangiles, devient ce temple-là. À Moïse, dans le désert, dans Exode, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Paul cite ce verset-là comme étant accompli maintenant dans l'Église. Dieu marche au milieu, sur terre, au milieu de ses enfants, au milieu de son peuple. C'est la même promesse qui était dans la tente, dans le désert, ensuite dans le temple, ensuite en Jésus-Christ, maintenant dans l'Église. Et c'est pas fini. Comment ça se termine, l'histoire? C'est le fun, parce qu'on a le scénario, et puis on a déjà la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? Les savants, là, Apocalypse 21. Hein? Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et puis, j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Mais là, c'est pour l'éternité. C'est la plénitude du rêve de Dieu d'habiter au milieu de l'humanité, en plein milieu de l'humanité. Et même au verset 22, il dit, je n'y vis pas de temple. Il n'y a pas de temple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, ainsi que Jésus. Alors, c'est comme ça que ça se termine l'histoire. Dieu désire habiter, demeurer, rencontrer son peuple, le temple de la rencontre. Hein? C'est là que Dieu se révélait à son peuple. Et c'est là que Dieu marchait avec son peuple. C'est là que Dieu dirigeait son peuple. Et c'est ce que nous sommes. Hein? Présentement, nous sommes la tente de la rencontre, nous sommes l'habitation de Dieu, nous sommes la demeure de Dieu, là où Dieu est présent, et puis il parle, puis il se rencontre. Si on pouvait voir les nuées au-dessus de l'édifice ici, et il y a des petites langues de feu peut-être qui se promènent durant toute la semaine, au travail et dans Cloverdale, partout dans les endroits où on se promène. Spirituellement, nous sommes ce temple-là, l'habitation de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu prends ton crayon puis tu es assis à ton bureau, tu es le temple de Dieu dans cet endroit-là. Hein? On n'est pas arrivé encore. Le temple est en marche. Il est en mission. Et je dirais différemment qu'il l'était dans le désert où Dieu a donné des instructions très précises. L'Église n'a pas de forme établie. Hein? Dieu n'a pas une forme précise. Ce n'est pas une construction matérielle. Quand on parle d'une église, on ne parle pas d'un édifice, on ne parle pas d'un bâtiment. L'église est faite de relations de pierres vivantes. Hein? L'église est faite de personnes. Elle est construite de personnes, toutes différentes, mais qui s'enchevêtrent les unes avec les autres. Sous la direction de l'architecte et du constructeur, qui est Dieu. Alors, chaque personne ici est une pierre vivante. Et nous ne sommes pas le temple de Dieu à nous autres tout seuls. Le temple de Dieu, c'est des enfants de Dieu qui sont réunis ensemble, qui sont capables de s'associer ensemble, qui sont capables de marcher ensemble. Et un peuple que Dieu aime. Et parce qu'il nous a aimés le premier, un peuple qui aime Dieu, un peuple qui aime les frères et sœurs, et un peuple qui aime le monde qui périt autour, comme Dieu le fait aussi. Ça doit être assez convaincant que le monde va en vouloir de ça. Hein? Quand Mimi elle se promène dans Cloverdale puis elle répand cet amour-là, les gens ils disent « j'en veux, elle a quelque chose, j'en veux. » Hein? Ce genre de pierre-là, vivante, que Dieu veut que nous soyons ensemble. C'est comme un... J'aimerais qu'on, si on peut afficher ça à nouveau local. Hein? Dieu aime Cloverdale. Dieu aime le monde. Et nous aimons Cloverdale. Pour moi, Cloverdale, c'est pas des... C'est pas une ville. Hein? C'est pas des blocs. Cloverdale, c'est quoi? Des personnes. Des visages. Et plus j'en rencontre, plus j'aime Cloverdale. Si Cloverdale, pour vous, c'est encore juste un quartier, juste des édifices, c'est bien, mais c'est juste le début. Le jour où vous allez venir en contact personnel, vous allez rencontrer ces personnes-là. Hein? Un Mario, où vous allez tomber en amour avec Mario. Hein? Et toutes ces personnes qui vivent là. Alors, Cloverdale, ou les personnes de Cloverdale, nous vous aimons. Et ça se sent, ça se voit. Et ça va se sentir, ça se voit de plus en plus. Alors, l'Église, c'est quelque chose qui se forme, qui se transforme, qui prend la forme des membres qui composent l'Église. Hein? L'Église se transforme. Elle prend la forme des membres de cette Église. Reculons il y a 10 ans, reculons il y a 20 ans, reculons il y a 30 ans. Et l'Église se transforme selon les membres qui la composent. Parce que Dieu est l'architecte, Dieu est le constructeur, c'est lui qui rassemble les pierres et qui forme un édifice avec chacune de ces pierres-là. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et nous ne serons pas dans 10 ans ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que Dieu va rajouter des membres à l'Église. Et ça va changer la forme de l'Église. On a la capacité d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Qu'est-ce que ça fait la lumière? Qu'est-ce que ça fait le sel? Ça pénètre, ça s'imprègne et ça influence la société. Ça fait du bien à ceux qui viennent en contact avec la lumière, qui viennent en contact avec ce sel-là. L'Église, à travers les siècles, elle a traversé toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'époques. Toutes sortes de régimes. Si on pense juste au premier siècle, les chrétiens ont été persécutés. Vous savez, sur YouTube, là, vous tapez sur une place en Inde, là, vous allez voir une vidéo de chrétiens qui se font massacrer à coups de bâton à cause de leur foi. Là. C'est sur YouTube. Odessa, je pense. Tapez Odessa. Et je vous l'enverrai en tout cas si ce n'est pas ça. Et tu regardes ça, est-ce que ça se peut, là? 21e siècle. Il y a encore des croyants qui sont massacrés à cause de leur foi. Juste parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont détestés parce qu'ils sont chrétiens. Imaginez, à l'époque, il n'y a pas de cathédrale, là. Hein, il n'y a pas d'endroit sûr où on pouvait se rencontrer et adorer Dieu. On se réunissait, on se cachait dans les catacombes, dans les lieux souterrains. Et devinez quoi, l'Église a s'est multipliée. Et ça a renversé l'Empire romain. Même chose dans les régimes athées, les régimes anti-Dieu, les régimes anti-Christ, comme le communisme et l'islam, l'Empire romain. L'Église a traversé tout ça. En Chine, on a expulsé en 49, Mao s'installe. Et on a chassé tous les missionnaires qu'on pouvait, on a détruit toutes les églises qu'on pouvait faire. Et puis 30 ans plus tard, ce qu'on apprend, c'est que l'Église s'est multipliée dans les églises maisons, les églises cellules, à travers toute la Chine. Pas tuable, ça. Hein? Les pierres vivantes, c'est pas tuable. Ça se reproduit. Plus c'est persécuté, plus c'est étouffé, plus c'est fort et plus ça se multiplie. En Amérique, est-ce que l'Évangile va survivre au capitalisme et avec tous les ismes? Est-ce que l'Église va survivre au matérialisme, à l'individualisme, au modernisme, au nihilisme? Ça va survivre? Oui? On va passer à travers ces ismes-là. Alors, nous sommes le temple de Dieu. Et nous déménageons à Cloverdale. Par la prière, par la foi. Dieu voulant. Si la tente est prête, on a tout préparé. Vous allez voir ça, là. On a pensé à qu'est-ce que ça prend pour bâtir la tour. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va pouvoir vous partager ça. On a préparé la tente. On est allé à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur nous a convaincus que c'était la chose à faire. Qu'est-ce qui manque? Le doigt du Seigneur. Hein? Et je suis content que ça arrive. C'était trop facile. Je suis content. Parce que là, frères et sœurs, on se met à genoux et on prie. Dans notre faiblesse, Dieu va pouvoir se manifester. Est-ce qu'on peut faire ça? Compter sur attendre la présence de Dieu, voir la puissance de Dieu, voir la nuée descendre, puis le Seigneur va dire, « OK, c'est pour vous. Voici la confirmation que c'est pour vous. » Alors, on va changer de forme, n'est-ce pas? Ça, c'est le local. On va changer la forme extérieure. On fait ça parce qu'on veut être sur le terrain, on veut pénétrer, on veut influencer, on veut transformer ce quartier-là. Peut-être vous dites que c'est moins beau, moins confortable, peut-être ça va coûter plus cher, pas le même standing, là. Peut-être inspiré, Jean, hein? On peut-tu savoir? Ça se dit-tu? Cinq pierres dans nos poches. Cinq pierres. Une fronde. Hein? Saül, on lui a mis l'armure. Pardon, David, on lui a remis l'armure de Saül. Il était pas confortable, mais c'était trop grand. Ça épousait pas ses formes comme il faut. Et il a pris cinq pierres. Il manquait de foi un petit peu, parce qu'il en avait quatre de trop. Hein? Il a besoin d'une. Oui? Il y avait des? OK. Il en voulait plus qu'un. OK, c'est bon. Ça explique bien les choses. Il avait son épée. Et puis, il est parti avec ce qu'il y avait. Et une sœur qui nous a dit que il y avait le feu, hein? Le feu, ça éclaire. Et le feu, ça fait de la chaleur. Et on allume un feu en Cloverdale et on espère que les gens vont venir se réchauffer autour du feu parce qu'ils vont voir qu'il y a une lumière. Hein? Comment on va faire ça? Comment est-ce qu'on va réussir à être cette lumière, ce feu-là? On peut dire, bon, on est petit, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'existe pas pour la communauté qui est là, en tout cas pour la ville, quelque chose d'insignifiant. On n'a pas les ressources humaines que d'autres organismes ont, d'autres organismes qui font du bien. On ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas faire ce que d'autres organismes font déjà très bien. Mais on peut faire ce qu'eux ne peuvent pas faire. Faire ce que seule l'Église de Jésus-Christ peut faire. Et que personne d'autre n'a l'autorité, n'a le pouvoir et n'a le mandat de faire. C'est quoi? Transformer des vies de l'intérieur. Changer les cœurs. Changer les cœurs. Mes frères, mes sœurs, si je croyais pas que Dieu ne peut pas changer les cœurs, après longtemps, j'aurais démissionné. Et c'est pas si facile que ça. Ça prend beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, beaucoup de prières, beaucoup d'intercession. Que Dieu transforme les cœurs. Mais ça, c'est notre raison d'être, c'est notre mission. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Les autres, ils peuvent tout faire le reste. Ils peuvent le faire mieux que nous. Mais il n'y a pas personne qui peut transformer les cœurs. Transformer des pauvres en bienheureux. C'est pas beau, ça? On peut prendre des pauvres et les transformer en bienheureux. On peut prendre des éplorés, des gens qui sont dans la misère, et les consoler, leur donner la consolation. On peut trouver des captifs, des gens enchaînés par leur péché, leurs mauvaises habitudes, leur hérédité, etc., etc., leur éducation, et les libérer par la grâce de Dieu. Nous sommes la présence de Dieu dans ce quartier-là, pour ces personnes-là, pour ces visages-là. Et notre message, c'est un beau verset dans Corinthiens pour terminer. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. C'est ce message, ça c'est la parole vivante, c'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Notre message, c'est on peut être réconcilié avec Dieu. On peut faire la paix avec Dieu. On peut avoir la vie de Dieu. Alors, un local, ça n'est qu'un local. Une tente dans le désert, ce n'est qu'une tente. Et une église, ce ne sont que des membres. Ce n'est que des membres. Mais quand la nuée descend, que Dieu vient habiter dans ce local, dans cette tente, dans ces membres-là, c'est Dieu qui est présent dans cette communauté. Soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyons la plénitude de Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Que son règne vienne. Que sa volonté soit faite à Cloverdale. Hein? Est-ce que Dieu aime Cloverdale? J'aime Cloverdale? Nous aimons Cloverdale. Et bien sûr, toutes les autres personnes, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes, juste chacun pour soi. On prie chacun pour soi. Et mettre ces vérités-là devant le Seigneur. Seigneur, je veux être cette tente de la rencontre, ce temple, dans cet endroit-là. Je veux être un ambassadeur, je veux être un réconciliateur. Alors, chacun pour soi devant Dieu, une prière de consécration à Dieu.